Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
L'économie n'attend pas. Elle bouge, elle évolue, elle vous surprend. Rejoignez votre hôte, Othman El Amzeri, alors qu'il explore et expose toutes les facettes du monde des finances. Bienvenue dans l'économie en mouvement.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans l'économie en mouvement. Votre rendez-vous où l'on prend de temps comme pour comprendre, pour expliquer et surtout pour mettre... Surtout de remettre en perspective les grands enjeux économiques qui façonnent notre quotidien. Alors, aujourd'hui, cette soirée, j'ai voulu quand même vous proposer une émission un peu spéciale, une émission en quatre temps, quatre regards, quatre fenêtres ouvertes sur l'économie mondiale telle qu'elle fonctionne. J'aimerais faire des caricatures textuelles imaginaires. Alors, on va parler des choses dont on entend souvent les noms, mais dont on comprend rarement la mécanique. J'étais cet après-midi en train de parler avec ma mère, où on a évoqué un sujet sur comment les pays s'endettent. Et avec quel mécanisme, avec quel enjeu. Et puis, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas parler du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Qu'ils aident, pourquoi et à quel prix. J'aimerais parler de la dette des pays développés, comme il se fait que les pays les plus riches du monde sont aussi les pays endettés, sans pour autant chanceler. Alors, avec quel mécanisme? Et j'aimerais parler aussi de l'inflation. Cette grande vague qui a touché l'ensemble de la planète entre 2021 et 2024, qui a frappé notre portefeuille, nos loyers, nos épiceries. Et enfin, pourquoi pas parler de l'économie du numérique. Comme je fais souvent, dans chaque émission, dans chaque dimanche, la dernière chronique, c'est plus quelque chose de diversifié, une panoplie de sujets politiques, de temps en temps environnemental, et pourquoi pas de parler aussi de l'économie numérique, ce monde invisible qui influence notre attention, notre information, nos comportements et même notre démocratie. Quatre sujets différents, mais un seul fil conducteur, c'est comment comprendre la structure réelle du monde économique, la structure qui agit sur nous, sur nos choix et sur nos sociétés. Parce que lorsqu'on met ces pièces ensemble, les institutions financières, les dettes publiques, les prix mondiaux, la numérique, l'intelligence artificielle, on obtient une image plus ou moins claire. Celle d'une économie globale, plus fragile, plus rapide, plus interconnecté, mais aussi plus dépendant de décisions prises loin de nous. Alors ce soir, on prend le temps pour en respirer, on analyse et on remet l'économie au mouvement ensemble. On va parler, quand je viens de mentionner, un sujet qui touche presque tous les pays du monde. Comment un pays obtient un crédit du Fonds monétaire, international, FMI, ou la Banque mondiale, et pourquoi ces prêts sont parfois synonymes de stabilité, mais aussi de sacrifices énormes. On va parler de la Turquie, du Maroc, de pays développés comme la France, États-Unis, Canada, et surtout des risques que cela implique. Première question que je vais poser, c'est pourquoi un pays demande un prêt? Le point de rupture, hein? Un État va au Fonds monétaire international quand il arrive au bord du précipice. Pas quand ça va mal, mais quand ça va vraiment très mal. La Turquie, par exemple, en 2001, une inflation à 70%. Monnaie qui s'effondre et banque en crise. Elle s'est tournée vers le FMI, qui lui a prêté 16 milliards de dollars pour éviter un effondrement total. Le Maroc, lui, n'est pas dans cette situation dramatique. Mais entre 2012 jusqu'à 2021, Rabat a sollicité plusieurs lignes de précaution et de la liquidité, qu'on va appeler le LPL, qui est ligne de précaution et de la liquidité. LPL, ligne de précaution et de liquidité, LPL, du Fonds monétaire international. Une formule qui permet de se protéger avant une crise. Cette ligne atteignait près de 3 milliards de dollars renouvelés plusieurs fois. Ce n'est pas un sauvetage, c'est quand même une assurance. À l'inverse, certains pays développés ont aussi besoin du Fonds monétaire international. Et oui, en fait, oui, ils ont toujours besoin du Fonds monétaire international. Ce n'est pas seulement pour les pays émergents. La Grèce, en 2010, a reçu un programme massif de 110 milliards d'euros, le plus grand plan d'aide de l'histoire européenne. Et pourquoi ? Parce qu'un État, même qu'il est riche, peut perdre la confiance des marchés en quelques jours. Et le processus, en fait, est toujours le même, comme Turquie, Maroc, Argentine, Éthiopie, peu importe. Il y a toujours, comme on appelle, la machine se met en marche, ce que le public ne voit jamais. En fait, il y a des étapes. Je peux les agréger en trois étapes. Alors, la première, c'est l'appel à l'aide, comme le ministre des Finances contacte le Fonds monétaire international. On n'a plus d'argent pour payer nos importations. Aidez-nous. Voilà, murmura-t-il. Voilà, il dit comme quoi on n'a plus d'argent pour nos importations, il nous faut de l'aide. La deuxième étape, c'est la mission d'article 4. Une équipe débarque, des économètes, des économistes, des statisticiens, des experts monétaristes. Ils analysent en fait le tout. Quand je dis le tout, ça veut dire le budget, la dette, la réserve, les subventions, les banques, les devises. En Turquie, par exemple, après la crise de 2001, le Fonds monétaire international a exigé qu'il faut avoir de l'interdépendance totale de la banque centrale, la fermeture de plusieurs banques insolvables et même une réduction massive du déficit. Et en Argentine, plus récemment, la mission a révélé des réserves négatives, une situation jamais vue. Et comme troisième étape, sont les conditions. Les conditions, c'est que le Fonds monétaire international prête, mais impose des réformes. C'est là que commence la vraie douleur. Alors, pour parler un peu des conditions, par exemple, pour la Turquie, après 2001, il y avait une suppression d'une partie des subventions. Il y a eu une hausse de certains impôts, réduction massive de dépenses publiques, mais comme résultat, en 5 ans, la Turquie a remboursé intégralement sa dette envers le Fonds monétaire international et quand même, elle a affiché une croissance supérieure à 7% par an entre 2002 et 2007. C'est un cas où ça a quand même fonctionné, mais avec un coût social énorme à court terme. Le Maroc, par exemple, le Fonds monétaire international, avec les LPL, a surtout demandé comme réforme fiscale, maîtrise du déficit, réduction progressive des subventions sur l'essence. Entre 2014 et 2015, le Maroc a diminué ses subventions sur le carburant. Une décision difficile, mais saluée internationalement. Et comme résultat, on a quand même là-bas le déficit est passé de 7% du PIB à environ 3,5%. Et la croissance est redevenue stable autour de 4% une partie des années suivantes. Et pour les pays développés comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie, tous ont dû accepter les mesures d'austérité sous pression européenne et Fonds monétaire international. En Grèce, par exemple, il y a eu une baisse de 30% des salaires publics, la retraite réduite. La TVA, taxe de valeur ajoutée, a augmenté à 24%. Et quand même, il y a eu des privatisations massives. Une décennie a perdu pour des millions de personnes. Et c'est où en fait le rôle de la Banque mondiale dans tout ça? La Banque mondiale n'est pas là pour sauver une économie en crise. Elle finance des projets de développement, barrages, routes, agriculture, écoles, transition énergétique, énergie renouvelable. En Turquie, quand même, elle a financé plusieurs projets d'infrastructure dans les années 2000. Au Maroc, elle soutient toujours des projets dans l'éducation, de l'eau potable, la transition verte. Et la Banque mondiale, elle quand même impose moins de mesures dures que le Fonds monétaire international, mais quand même, elle exige la transparence, la lutte contre la corruption. C'est quelque chose de plus qualitatif, quelque chose de développement, comme l'audit de projet. Alors, est-ce que ces prêts créent vraiment du développement quand on parle de développement dans le vrai sens du terme? Ou bien, il aggrave la pauvreté? Personnellement, je trouve ça un peu paradoxal, car il y a quand même un côté qui est positif et autre façade qui peut être négatif. Les côtés positifs, par exemple, les prêts du Fonds monétaire international permettent de stabiliser une monnaie, d'éviter, je peux dire, d'éviter un défaut, d'attirer des nouveaux investisseurs, les investisseurs directs étrangers, les IDE, d'éviter une fuite massive des capitaux. En Turquie, par exemple, après la crise de 2001, les réformes du Fonds monétaire international ont permis une croissance forte pendant plusieurs années. Au Maroc, les lignes de précaution, précaution ont rassuré les investisseurs maintenus de la notation souveraine stable et protégée en fait, contre les chocs extérieurs. Mais quand même, quand je viens de dire, c'est quelque chose de paradoxal. Donc, il existe une phase cachée négative. C'est un prix caché. C'est, il y a la perte de pouvoir d'achat, la hausse des prix, mécontentement social, sacrifice budgétaire sur la santé et l'éducation. L'exemple de la Grèce reste plus parlant. Le PIB a chuté de 25% en 5 ans. Il y a aussi le chômage à 27%. La jeunesse forcée d'émigrer. Alors les pays développés dans tout ça sont où ? Sont-ils mieux protégés ? Pas forcément, car je vais en parler dans la deuxième chronique. Les États-Unis ont une dette quand même publique de plus de 34 milliards, de 34 000 milliards de dollars. La France dépasse désormais 3 100 milliards d'euros. Le Japon a une dette équivalente à 260% de son PIB, un record vraiment mondial. Pourquoi ne vont-ils pas au Fonds monétaire international ? Parce qu'ils empruntent en leur propre monnaie et que le monde entier accepte de leur prêter. Mais attention, quand les taux d'intérêt montent, même les pays riches tremblent. L'Italie, par exemple, dépense aujourd'hui plus de 70 milliards d'euros par an en intérêts. Et autant que son budget de l'éducation, se montre une vraie, ou bien une vérité simple. La dette n'est pas seulement un problème des pays pauvres. Les prêts du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, sont comme un médicament très puissant. Il peut sauver un pays, mais ses effets secondaires peuvent être vraiment très violents. La Turquie en profitait pour repartir à zéro. Le Maroc les utilise pour se protéger avant la crise, même si je doute. La Grèce a vécu les coûts extrêmes. Et des pays développés comme la France, les États-Unis ou le Japon vivent dans une économie de dépendance permanente au marché financier. Alors, la question n'est plus « faut-il un prêt ?». La vraie question que je peux poser personnellement, comment éviter d'y retourner ? Parce qu'un pays solide, je le vois, n'est pas celui qui évite les crises. C'est celui qui construit une économie capable d'y survivre, sans perdre sa souveraineté, son économie et surtout sans sacrifier ses citoyens, sans sacrifier ses ménages, sans sacrifier le pouvoir d'achat de ses ménages. Alors c'était ça en fait notre première chronique. Aujourd'hui, le 16 novembre, le dimanche 16 novembre, notre chronique était sur comment les États obtiennent des crédits du Fonds monétaire international et aussi de la Banque mondiale. On part directement sur une courte pause et on revient avec notre second sujet qu'on va juste enchaîner avec, qui parle sur plus pourquoi les pays riches sont-ils endettés. Alors voilà, courte pause sur les ondes de CFA 88.3.